Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Alléluia. Très brièvement, ce matin, avant que mon mari aussi vous apporte la parole, ce que Dieu a mis dans son cœur, j'aimerais terminer mon message enfin sur le Dieu de la délivrance. Parce que ça fait déjà plusieurs semaines qu'on y est dessus. Et mes amis, on pourrait continuer encore des semaines et des semaines et des semaines. Parce que chacun d'entre nous dans nos vies, nous pouvons témoigner que ce Dieu que nous servons et que nous aimons est le Dieu de la délivrance. Il est ce Dieu qui nous délivre, il est ce Dieu qui nous secourt, il est ce Dieu qui étend sa main et qui nous arrache des eaux et du feu et de toutes les choses par lesquelles nous passons. Donc ce matin, je vais être rapide, mais j'espère être un bulldozer dans le nom de Jésus, une mitraillette dans le nom de Jésus pour le Seigneur. Hallelujah! Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Ce matin, je ne serais pas capable de vous parler du Dieu de la délivrance si je n'avais pas moi-même goûté et expérimenté ce Dieu de la délivrance. Hallelujah! La Bible dit qu'on ne peut donner que ce que l'on a reçu. On ne peut partager que ce que l'on a appris. On ne peut donner que ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et ce matin, je ne pourrais pas vous parler du Dieu de la délivrance si je ne l'avais pas goûté, si je ne l'avais pas expérimenté, si je ne l'avais pas vécu, si je ne l'avais pas vu moi-même de mes propres yeux dans ma vie. Hallelujah! Si je peux vous parler ce matin une dernière fois du Dieu de la délivrance, c'est parce que je suis passé, nous sommes passés par des situations impossibles, par des combats, par des temps où l'issue était incertaine. Vous savez ce que c'est lorsque vous passez par des situations où l'issue est incertaine? Vous savez pas si on va vous dire oui ou si on va vous dire non, si on va vous ouvrir la porte ou si on va vous la fermer. Vous ne savez pas ce qu'il y a devant vous, même à 10 mètres, même à 5 mètres de vous. C'est noir, c'est sombre, vous ne voyez aucune lumière, vous êtes comme dans un tunnel. L'issue est tout à fait incertaine. Hallelujah! Est-ce que vous êtes déjà passé par des situations comme cela? Mes amis, je suis passé par des situations comme cela. Nous sommes passés par des situations comme cela. Hallelujah! Des temps où les choses ne dépendent que d'un fil. Tout se joue, il semble que tout tient par un fil. Il semble que tout, vous savez, tout ne tient que par un fil. Vous connaissez ce genre de situation, n'est-ce pas? Où vous passez par des situations aussi, et je peux en témoigner, où il y a des plans préparés contre vous, où il y a des gens qui ont calculé des situations pour vous faire tomber dans des pièges, pour vous faire tomber dans des ruses, des gens qui ont des plans mauvais contre vous, des plans calculés, échafaudés, préparés, structurés. Hallelujah! Si je peux vous parler du Dieu de la délivrance ce matin, c'est parce que je suis passé, nous sommes passés au travers de toutes ces situations. Mais si je suis sur cette estrade, c'est pour vous dire, hallelujah, qu'en dépit de toutes les ruses des hommes, en dépit de toutes les ruses de l'ennemi, en dépit des impossibilités, nous avons toujours vu la main puissante de Dieu. Hallelujah! Dans les temps sombres, dans les tunnels noirs, dans les situations impossibles, dans les temps de peur, dans les temps de crainte, dans les temps où nous ne savons pas, où nous ne comprenons pas, où il n'y a même pas d'explication, nous avons toujours vu la main puissante de Dieu. Hallelujah! Et la main puissante de Dieu est toujours venue renverser, transformer, changer les situations. Il y avait un homme, c'était le petit-fils de Nabuchodonosor. Son nom s'appelait Belshazzar. Oh, hallelujah! Cet homme-là, il était en train de faire la fête. Il avait réuni tous ses princes. Il avait réuni tous ces gens importants du royaume. Et ils étaient en train de faire une fête. Ils étaient en train véritablement, en fait, de faire une orgie. Le peuple de Dieu était en esclavage à Babylone, mais lui, il était enfermé dans son palais. Et il avait pris les coupes de l'Éternel, les coupes qui sortaient du temple de Salomon, ces coupes qui étaient sanctifiées, consacrées à l'Éternel. Il les avait pris, ils avaient mis du vin dedans, et ils faisaient toute espèce d'horreur, toute espèce de mauvaise chose. Belshazzar ne connaissait pas Dieu. Belshazzar outrageait le nom de Dieu. Mais la Bible dit, alors qu'ils étaient tous en train de faire ce grand festin, la Bible dit qu'une main est apparue. Une grande main est apparue dans cette salle, dans ce palais de festivité. Et cette main est venue et elle s'est mise à écrire sur le mur. Elle s'est mise à écrire sur le mur quelque chose. Et alors que cette main a écrit sur le mur, tout le monde s'est arrêté. La fête s'est arrêtée. La joie s'est arrêtée. Le vin a cessé de couler. Tout le monde est resté pétrifié, paralysé. Parce que ce n'était pas la main d'un homme, c'était la main de l'Éternel. Parce que tous ces gens qui étaient là, qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne vénéraient pas Dieu, qui outrageaient le nom de l'Éternel, ont été confrontés avec la main de l'Éternel. C'était la main de l'Éternel qui était venue écrire sur le mur. Et vous savez très bien, parce que ce n'est pas mon sujet ce matin, d'aller sur la vie de Belshazzar, mais vous savez très bien ce que la main a écrit. Elle a écrit « peser, peser, compter ». Alléluia, tu as été trouvé léger dans la balance de l'Éternel. Et ton royaume maintenant t'es retiré. Et dans la même nuit, le royaume de Belshazzar, son règne, lui a été ôté. Alléluia. Mais mes amis, ils ont vu la main de l'Éternel. C'était la main de l'Éternel qui leur apparaissait. Peut-être certains d'entre vous, vous ne voyez pas la main de l'Éternel. Aujourd'hui, qui a vu la main de l'Éternel? Est-ce que nous l'avons vu physiquement? Est-ce que d'autres personnes l'ont vu physiquement? Peu de monde a vu la main de l'Éternel physiquement. Alléluia. Mais si nous ne la voyons peut-être pas physiquement ou de nos yeux aujourd'hui, nous pouvons savoir que la main de l'Éternel est sur nos vies. Nous pouvons savoir que la main de l'Éternel est sur notre famille, que la main de l'Éternel est dans nos situations, que la main de l'Éternel est sur ce ministère, que la main de l'Éternel est sur nous. Alléluia. Et que la main de l'Éternel renversera les situations. Est-ce que vous le croyez ce matin? C'est la parole de Dieu qui le déclare. Ésaïe 59, 1 déclare « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre et exaucer. » Alléluia. Exode 13 déclare que lorsque le peuple de Dieu est sorti de l'esclavage, c'est par une main puissante que l'Éternel l'a fait sortir. Lorsqu'Esdras est parti pour construire et reconstruire le temple, la Bible dit que la main de l'Éternel était sur Esdras et que le roi lui accorda tout ce qu'il lui demandait. C'est ça d'avoir la main sur votre vie. Acte 11 déclare à propos des apôtres, à propos des disciples, que la main de l'Éternel, la main du Seigneur était sur eux et qu'un grand nombre de personnes crurent et se convertir. Mes amis, c'est cela lorsque vous avez la main de l'Éternel sur vous. Est-ce que la main de l'Éternel est sur vous ce matin? Est-ce que vous avez l'assurance que la main de Dieu est sur votre vie ce matin? Alléluia! Croyez que la main de Dieu est sur votre vie. Parce que lorsque vous avez la main de Dieu sur votre vie, vous ne savez peut-être pas d'où viendra le secours. Viendra-t-il de droite? Viendra-t-il de gauche? Viendra-t-il par quelqu'un? Viendra-t-il directement de l'Éternel? Viendra-t-il d'en haut? Viendra-t-il d'en bas? Viendra-t-il de devant? Viendra-t-il de derrière? Vous ne savez pas d'où viendra le secours. Mais lorsque vous avez la main de l'Éternel sur votre vie, vous savez que la main de l'Éternel apportera le secours de toute façon. Alléluia! Le psaume 66 est un psaume important. C'est un très beau psaume. C'est un psaume qui s'appelle « Bénédiction après l'épreuve ». Ce psaume parle vraiment d'une louange à l'Éternel. C'est une louange pour ses hauts faits. Pour voir les premiers versets, on peut le voir ensemble, il est écrit « Poussez vers l'Éternel, des cris de joie, vous tous, habitants de la terre ». Alléluia. Est-ce que quelqu'un a un cri de joie ce matin? Vers l'Éternel, alléluia. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges, dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables, à cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur, Elle chante ton nom. Venez compléter et contempler les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Tout ce psaume parle des grands miracles et des faits que l'Éternel a fait. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange, car il a conservé la vie à notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancelle, car tu nous as éprouvés. Tu nous as fait passer, ô Dieu, au creuset comme l'argent, et tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes, et nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as retirés pour nous dans l'abondance. J'irai dans la maison avec des holocaustes, et j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Tout ce psaume est un psaume de louange et d'adoration. Mais il y a une chose importante que dit le psalmiste, et que j'aimerais voir avec vous au verset 18. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui m'a retiré par sa bonté. Alléluia. Vous savez, c'est important de savoir que la main de l'Éternel existe. C'est une chose de savoir que la main de l'Éternel bénit, que la main de l'Éternel rend prospère, que la main de l'Éternel délivre. C'est une autre chose de savoir que la main de l'Éternel est sur votre vie. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Et mes amis, le psalmiste déclare ici, tu nous as retirés, tu nous as fait sortir, tu nous as fait passer par l'eau et par le feu, par ta main toute puissante. Et il déclare vraiment toute la louange à Dieu. Mais il s'arrête à un moment et il dit, oui mais, s'il y avait de l'iniquité dans nos cœurs, si nous n'étions pas justes, si nous n'étions pas droits, si nous n'étions pas intègres, si nous n'étions pas loyaux, si nous n'étions pas fidèles, si nous n'étions pas consacrés, si nous n'avions pas donné notre vie entre tes mains, Seigneur, si nous n'étions pas tes enfants de cœur, hallelujah, si nous avions conçu l'iniquité dans notre cœur, le Seigneur ne nous aurait pas exaucés. Alléluia. C'est une chose de chanter, de danser la main de l'Éternel sur ma vie. Est-ce que vous êtes sûr que la main de l'Éternel est sur votre vie? Est-ce que vous vous positionnez pour que la main de Dieu soit étendue sur votre vie? Parce que mes amis, lorsque la main est sur votre vie, Dieu vous délivre. Il vous délivre même de la fosse. Il retire votre âme. Alléluia. Il fait pour vous de grands prodiges. Parce que Dieu est avec vous. Dieu est pour vous. Alléluia. Mais que votre cœur appartienne à l'Éternel, que votre vie soit entre les mains du Seigneur, afin que vous puissiez déclarer, comme le psalmiste, que l'Éternel a entendu votre voix, il a écouté votre prière et il vous a exaucé dans le nom de Jésus. Je vous ai déjà partagé plusieurs points ces dernières semaines à propos de la délivrance de l'Éternel. Je vous ai dit premièrement, alléluia, que Dieu, lorsqu'il vous délivre, il a plusieurs façons de vous délivrer. Il a plusieurs façons de vous faire sortir de vos situations. Et j'ai dit la première chose, merci à cette personne qui vient de me le souffler, enfin quoique je le savais, mais peut-être certains d'entre vous avez besoin qu'on vous le rappelle, que l'Éternel vous révélera les plans de vos ennemis. C'est une chose très importante. La deuxième chose que l'on a vue ensemble, c'est que Dieu... Oh, gloire à Dieu, alléluia! Il y a un peuple ce matin. Dieu frappera d'aveuglement vos ennemis. Est-ce que vous le croyez ce matin? La troisième chose que nous avons vue, c'est que Dieu... Ouh, alléluia, effraiera vos ennemis. J'ai pour vous très rapidement ce matin trois autres points qui seront pour ce sujet, je pense, mes derniers points. L'Éternel mettra le désordre dans le camp de l'ennemi. Alléluia. L'Éternel mettra la confusion dans le camp de l'ennemi. C'est une puissante arme de l'Éternel. C'est une puissante ruse que Dieu a pour nous. Est-ce que vous le croyez ce matin? Mes amis, lorsque le peuple de Dieu partait d'Égypte. Légalement, ils avaient été autorisés à partir. Ils partaient tranquillement. Ils sont arrivés jusqu'à la mer Rouge. Mais la Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon et que Pharaon est sauté sur son cheval. Il était menaçant. Il était plein de haine. Il avait bien l'intention de les détruire cette fois-ci, ces Hébreux. Il a couru avec toute son armée. On peut imaginer l'immense nuage de poussière, l'immense nuage de sable que formait à l'horizon cette armée qui avançait à toute vitesse, qui avançait pleine de haine et pleine de colère. La Bible dit que le peuple de Dieu était là, devant cette mer agitée, cette mer tumultueuse. Et tout le monde s'est tourné vers Moïse et a dit, Moïse, mais y avait-il pas de cimetière en Égypte pour que tu nous fasses mourir là? Et vous savez que Dieu a parlé à Moïse, il a étendu son bâton et les eaux se sont séparées, les eaux se sont ouvertes. Alléluia. Mais voyez-vous, lorsque le peuple de Dieu a marché, vous savez, la mer, cette mer rouge n'était pas une petite rivière. C'était une grande mer. C'était une mer très longue. Imaginez-vous en train de traverser une mer à pied. Ils ont commencé à marcher. Oh, les eaux se sont ouvertes. Mais la réalité des choses, c'est qu'ils ont commencé à marcher sur ce terrain sec et que les armées arrivaient très très vite derrière. Et en fait, les armées sont entrées, elles aussi, sur la terre sèche. Tant et si bien qu'il y avait les Hébreux devant sur la terre sèche. Et il y avait les armées de Pharaon qui arrivaient et qui entraient aussi dans cette mer. Parce que vous savez que la mer s'est refermée sur eux. Ça veut dire que pendant un certain temps, ils ont bénéficié du surnaturel qui était pour les Hébreux. Eux aussi, ils se sont engouffrés dans cette mer qui était un terrain sec. Mais la Bible dit qu'ils avançaient vite. Tournez avec moi dans Exode 14. Alléluia. Il est dit au verset 23, « Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. » N'est-ce pas? Vous l'avez maintenant? « À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens. » Et la Bible dit qu'il mit en désordre le camp des Égyptiens et que tout le monde dise « Alléluia !» Il ôta les roues de leurs chars et il rendit leur marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. C'était un peuple fort, mais la Bible dit que la main de l'Éternel vint et mit la confusion dans le camp de l'ennemi. La main de l'Éternel vint et dévissa les roues de leurs chars, rendit leur marche difficile. Parfois, vous vous attendez à ce que Dieu détruise l'armée, qu'elle parte en fumée. Comme les disciples se sont tenus et ont dit à Jésus, « Oh, fais descendre le feu du ciel, vraiment qu'il soit consumé sur place. » Et Jésus s'est tourné vers eux et leur a dit, vous ne savez pas avec quel esprit vous êtes en train de parler et de dire ces choses. Parfois on s'attend à ce que nos ennemis ou les gens qui nous font de l'opposition, les gens qui nous disent non, les gens qui ferment la porte devant nous, soient vraiment détruits, qu'ils disparaissent. Oh, on prie comme ça. Certaines disent, oh, Seigneur, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Dieu ne fait pas les choses comme vous le voulez. Il a sa façon de faire, soit il les aveugle, soit il les... Il vous révèle leurs plans, soit il les effraie. Il peut aussi mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Alors soyez pas fixés en regardant d'un côté en disant, Seigneur, tu dois venir de ce côté. Tu dois faire les choses de cette façon-là, alors qu'il est en train de faire les choses de l'autre côté. Il est en train de faire les choses d'une autre façon. La Bible dit que nous ne connaissons pas les voies de l'Éternel. Elles sont pour nous impénétrables. Mais les plans de Dieu sont plus grands que nos plans. Les voies de Dieu sont plus grandes que nos voies. Hallelujah. Cinquièmement, parce que c'est mon cinquième plan. Dieu abaissera et humiliera vos ennemis. Oh, mais ça, vous ne devez pas le désirer. Est-ce que vous m'entendez? Vous ne devez pas avoir dans votre cœur de ressentiment. Vous ne devez pas avoir dans votre cœur le désir que vos ennemis soient humiliés ou abaissés. Vous devez avoir dans votre cœur simplement de l'intégrité, de rester juste et droit devant Dieu dans vos situations d'humiliation ou dans vos situations d'abaissement ou dans vos situations difficiles. Jamais ne concevez dans votre cœur de la haine et de vouloir faire votre propre justice, parce que Dieu ne le fera pas. Si vous vous justifiez vous-même, Dieu ne vous justifiera pas. Si vous ne vous justifiez pas, Dieu vous justifiera. De la même façon, si vous ne vous élevez pas, Dieu vous élèvera. Ça marche comme ça. Mais Dieu est bien capable, hallelujah, avec son onction de délivrance, d'abaisser et d'humilier vos ennemis. Je dis cela et je dis cela en connaissance de cause. Et Dieu connaît mon cœur. Et parfois j'ai dû garder mon cœur de vouloir prendre la situation entre mes mains, vraiment entre mes mains. Parfois de prendre certaines personnes entre mes mains, vraiment entre mes mains. Et j'ai appris à remettre les choses dans les mains du Seigneur. J'ai appris à croire et à savoir que Dieu était notre justice et qu'il le ferait en son temps. Je me rappelle ici sur cette estrade, alors que j'étais en train de traduire le message d'un orateur, me semble-t-il que c'était le pasteur Bilek. Et il a parlé alors qu'il prêchait et qu'il vous prêchait. Il a parlé une parole qui me parlait à moi. Et cette parole disait, dans un moment où qui était difficile pour moi, où j'avais envie de régler les situations par moi-même et de remettre la vérité par moi-même et de faire toute espèce de choses par moi-même, il a parlé une parole en disant que ce n'était pas à nous de nous justifier ou pas à nous de faire vengeance. Et rappelez-vous toujours, la vengeance ne vous appartient pas. Elle appartient à l'Éternel. S'il y a une chose qui ne vous appartient pas, c'est la vengeance. Elle appartient à Dieu. Autre chose, il y a une chose qui ne vous appartient pas, c'est le jugement. Juger les gens ne vous appartient pas. Vous n'avez pas le droit. Vous n'y touchez pas. Cela appartient à Dieu. Le jugement et la vengeance appartiennent à l'Éternel. La Bible dit dans 1 Samuel 19:20. David venait de vaincre Goliath. Il avait vaincu Goliath pour Saül. Amen. Pour que Saül ne soit pas, non seulement pour que le nom de l'Éternel ne soit pas moqué, mais pour que Saül ne soit pas détruit, pour que toute l'armée de l'Éternel ne soit pas détruite. Mais Saül est devenu extrêmement jaloux. Il était rempli de meurtre. Il était rempli de haine. Il a pris la lance. Il l'a jetée contre David. Il a pris le javelot. Il l'a jetée contre David. David a dû s'enfuir et se cacher chez lui. Et puis il a dû quitter chez lui parce que sa vie était vraiment en danger. Et David et Saül a demandé à ce que même le lit de David lui soit amené pour qu'il jette le javelot dans ce lit et qu'il le tue. Oh, quelle horreur, n'est-ce pas? Quelle haine! La Bible dit, et tournez avec moi dans 1 Samuel 19. La Bible dit que Saül envoya des troupes, des gens haineux, des gens pleins de vengeance, qui voulaient rendre justice. Il envoyait des troupes, et c'est dans 1 Samuel à partir du verset, donc c'est 19 à partir du verset 18. La Bible dit que cette première troupe, regardez-moi, cette première troupe de personnes, ces gens, cette armée, sont arrivés pour se saisir de David qui était avec Samuel. Et la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel se saisit des envoyés de Saül, et alors qu'ils étaient là pleins de haine, regardez-moi, ils étaient là pleins de haine, avec leurs âmes, d'un seul coup ils se sont mis à prophétiser. Ils étaient là avec des armes, pleins de vengeance, pleins de haine. L'Esprit de Dieu tombe sur eux, ils se mettent à prophétiser. Saül entend cela, il envoie une deuxième troupe. cette deuxième troupe arrive, elle est encore plus en colère, elle est encore plus déterminée à attraper ce David. Elle arrive là, l'Esprit de l'Éternel tombe sur eux, et ils se mettent à nouveau à prophétiser. Saül n'y comprend rien. Il envoie une troisième troupe d'hommes encore plus méchants, encore plus déterminés. Arrive et dit, mais nous, on va pas se faire piéger. On va pas se faire piéger, là. Ceux-là, ils plaisantent, ils jouent. Qu'est-ce qu'ils font? Nous, on vient, on va se saisir de David. On va le tuer. Ils arrivent là, et qu'est-ce qu'il se passe? Pour la troisième fois, ils se mettent à prophétiser. Ils lâchent leurs armes, ils se mettent à prophétiser. L'Esprit de l'Éternel tombe sur eux. Donc Saül dit, moi, je vais y aller moi-même. Puisque c'est comme ça, je vais y aller moi-même. Et moi, je vais rendre justice par moi-même. Je vais rendre vengeance par moi-même. Oui, mais la Bible dit que Dieu sait abaisser et humilier vos ennemis. Saül part. Et la Bible dit, au verset 22, alors que Saül lui-même alla à Rama, arrivé à la grande citerne qui est à Sécou, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najoth près de Rama. Et il se dirigea vers Najoth près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Saül arrive avec ses vêtements royaux. Avec ses armes, il a l'intention de faire le mal. Il a l'intention de faire du mal. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu est tombé sur lui. De sorte qu'il a été empêché de faire du mal. Il a été incapable de faire du mal. Et non seulement cela, il s'est retrouvé nu. Le roi. On parle bien du même roi. Le roi, Saül, dans toute son honneur et dans toute sa dignité. L'Esprit de l'Éternel est tombé sur lui. Il a été abaissé. Il s'est retrouvé nu, en train de prophétiser. Sans aucune arme, sans aucune défense. Imaginez lorsqu'il est revenu à lui-même. Imaginez lorsque le roi est revenu à lui-même. Qu'est-ce qui se passe ici? Où sont mes vêtements? Il a pris ses vêtements. Il a pris ses armes. Et il s'est vite enfui dans son royaume. Mais vous savez, Dieu fait la même chose. Il y a des gens, ils ont des grandes bouches. Ils vous menacent. Ils vous parlent méchamment. Que ce soit des gens à votre travail, que ce soit, quelles que soient les situations et où qu'ils soient. Et nous ne faisons pas la guerre entre peuples de Dieu. Nous sommes des enfants et des frères ici. Enfants de Dieu et des frères et sœurs en Christ. Amen. Hallelujah. Mais mes amis, il y a des gens qui ont des grandes bouches menaçantes. Mais Dieu sait s'en occuper. Croyez-le ce matin dans le nom de Jésus. Dieu sait les traiter. Hallelujah. Hallelujah. Maintenant, je vous ai partagé tous ces points et je vous ai dit ce matin, alléluia, que Dieu, premièrement, il place la confusion dans le camp de l'ennemi. Deuxièmement, il abaisse vos ennemis. Alléluia. Mes amis, maintenant, si Dieu ne vous révèle pas ses plans, pardon, si Dieu ne vous révèle pas les plans de l'ennemi, s'il ne frappe pas d'aveuglement vos ennemis, s'il n'effraie pas vos ennemis, hein, s'il ne met pas le désordre dans le camp de l'ennemi, hein, ou s'il n'abaisse pas vos ennemis, hein, en d'autres termes, si Dieu n'enlève pas l'épreuve qui est devant vous, hein, si donc vous devez passer par l'épreuve, ce qui arrive souvent, on attend Dieu dans toutes ses phases, parfois, Dieu nous attend dans une de ces phases. Parfois, on passe au travers de toutes ces phases et rien ne se passe. Si donc vous devez passer au-dedans de l'épreuve, ce qui arrive souvent, alors sachez ce matin qu'il enverra le quatrième homme. Hallelujah! Hallelujah! Dieu sera avec vous parce qu'il est le Dieu de la délivrance. Il sera avec vous dans le feu. Il sera avec vous dans le zoo. Et la Bible dit que le feu ne vous brûlera pas. La Bible dit que les eaux ne vous submergeront pas. Car je suis avec toi, dit l'Éternel. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont été menacés d'être jetés dans le feu. N'est-ce pas? Et puis après, ils se sont retrouvés devant le feu. Dieu n'a rien fait. Puis ils ont été jetés dans le feu. Et enfin, ils ont marché dans le feu. Mais mes amis, le roi s'est levé. Et le roi a regardé. Et il a déclaré, « N'en ai-je pas jeté trois dans le feu ? Et voici, j'en vois quatre, et le quatrième ressemble à un des fils de l'homme. » Alléluia ! Si vous êtes menacé du feu et que rien ne se passe, puis si vous vous trouvez devant le feu et qu'enfin vous êtes jeté dans le feu, sachez que Dieu enverra le quatrième homme. Et le quatrième homme, c'est Jésus-Christ. Parfois, voyez-vous, Dieu frappe d'aveuglement nos ennemis.